une semaine d'actualité. François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition pour revivre les temps forts des 7 derniers jours et les décrypter en compagnie de notre invité aujourd'hui, Yann Mince, rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale. Bonjour Yann.
Bonjour.
Le numéro sur les nouveaux buts et les nouvelles pratiques d'espionnage est toujours disponible en kiosque en France et sur internet sur votre site www.alternative-international.fr, tout comme le hors-série sur l'alimentation et ses enjeux.
Absolument.
Quant à nous, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en ligne sur notre site www.rfi.fr et que vous pouvez la podcaster. Rendez-vous également pour vos questions et vos commentaires sur notre page Facebook Une Semaine d'Actu.
RFI.
Une semaine d'actualité à Gaza avec une situation volatile que l'on suit heure par heure sur RFI. Israël a poursuivi ses opérations toute la semaine, y compris lundi, le soir de l'Aïd, la rupture du jeûne du Ramadan. C'est une des plus grandes fêtes pour les musulmans, mais l'Aïd a été un cauchemar cette année, comme l'ont confié ses habitants de Gaza à nos confrères de Monte Carlo d'Oualia, présents sur place.
C'est un Aïd durant lequel nous voyons des martyrs. C'est un Aïd où nous voyons la destruction. De quel Aïd vous me parlez? L'ambiance n'est pas à la célébration. Qui pourrait vouloir faire la fête? Qui pourrait vouloir préparer des repas de fête? Et pour les déguster avec qui? Nos enfants disparus? C'est un péché. Le monde nous a abandonnés.
Pour cet Aïd, l'ambiance n'est pas à la célébration. Regardez ce qui s'est passé chez nous à Gaza. Il y a des morts et de la destruction, beaucoup de destruction.
Que voulez-vous que je ressente en cet instant? Mes sentiments sont ceux d'une mère qui vient de perdre son fils le jour de l'Aïd. Une mère qui ouvre ses yeux le jour de l'Aïd et qui ne trouve plus son fils à ses côtés.
Cet Aïd n'est pas un Aïd. Nous ne pouvons donc pas dire que c'est un jour de fête. Nous pouvons le qualifier de choc, mais certainement pas de jour de fête. Sur cette terre, aucun être humain n'a fait autant de mal à un peuple que ce que nous fait subir le colonisateur israélien.
Yann Mince, la sortie de crise est incertaine. Quel sens peut-on donner à cette longue campagne israélienne qui a quand même un coût pour Israël, coût humain, économique, coût diplomatique?
Oui, elle a d'abord un coût humain pour les Palestiniens, pour les habitants de Gaza et pour les civils essentiellement, puisque ceux qui payent le prix de l'offensive israélienne, ce sont essentiellement les civils à Gaza. Je crois que cette situation est politiquement absurde. Je dis politiquement parce que je pense que les mots des reportages montrent bien le drame humain. Politiquement, c'est absurde parce que cette idée que Israël peut finir par détruire le Hamas, ça n'a pas de sens. Alors, sauf si l'objectif est simplement de l'affaiblir, comme lors des offensives précédentes, et on a vu qu'à chaque fois qu'Israël a fait une offensive, certes le Hamas a été affaibli, mais il a pris une nouvelle vigueur et parfois avec des armes encore plus perfectionnées. Je ne vois pas l'objectif politique à long terme de cette offensive, si ce n'est un objectif peut-être de plus long terme de la part de Benjamin Netanyahou, qui est de faire comprendre aux Palestiniens, par la force, qu'il faut qu'ils se résignent, qu'ils renoncent à être souverains, en gros qu'ils se soumettent à la volonté israélienne. Je pense que c'est absurde, et c'est absurde, c'est d'autant plus absurde venant du peuple juif, des Israéliens, qui eux-mêmes ont fait preuve pendant des siècles d'une grande ténacité jusqu'à obtenir la souveraineté sur une terre. Je pense que les Israéliens devraient comprendre que les Palestiniens, même par la force des armes, ne se résigneront pas. Ça ne veut pas dire que ça justifie du tout la politique du Hamas. Le Hamas n'a pas plus de propositions politiques à faire. Le Hamas est dans une attitude de combat. Pour le combat, il a trouvé une nouvelle légitimité dans le combat, mais il n'a aucune proposition politique à faire. Et malheureusement, ceux qui devraient avoir une proposition politique à faire aux Palestiniens, qui est Abou Mazen,
le Fatah,
l'autorité palestinienne en tout cas, ceux-là ne peuvent pas parce que Israël ne veut pas leur faire la moindre concession.
On a l'impression que le Hamas tend des pièges à Israël et qu'à chaque fois, les Israéliens tombent dedans.
Disons que le Hamas est dans une stratégie effectivement de guérilla plus que de guerre frontale. Il a obtenu une victoire psychologique pas une victoire politique, une victoire psychologique, c'est en tirant quelques roquettes sur Tel Aviv. Il a donné aux Israéliens ce sentiment que le mur de protection qu'avait érigé Israël, en fait, n'était pas une véritable protection. Pendant quelques années, il n'y a pas eu effectivement d'attentat à Tel Aviv, et c'est normal qu'il n'y ait pas d'attentat terroriste, évidemment. Les Israéliens avaient de ce fait l'impression de sécurité. Les roquettes leur ont donné une impression d'insécurité aujourd'hui, même s'il faut dire que les roquettes ont fait très peu de dégâts, en fait.
Et la communauté internationale, trop silencieuse, complètement paralysée.
Je suis un peu résigné sur la communauté internationale. Je pense que les États-Unis ont montré une fois de plus, y compris avec Barack Obama, qu'ils ne voulaient pas forcer la main d'Israël. Les Européens en ont très moyennement les moyens et pas beaucoup envie. Et de toute façon, la paix se fera, si elle doit se faire, entre les Israéliens et les Palestiniens. Ce sont les acteurs locaux. Je crois qu'à l'extérieur, on peut avoir un peu d'influence, mais pas déterminante. Il y a un acteur qui a une influence aujourd'hui relativement importante, en creux, c'est l'Égypte. L'Égypte a fermé les tunnels entre Gaza et l'Égypte. Ce faisant, elle a coupé les moyens de vivre du Hamas. Ça a été une décision politique. Et aujourd'hui, l'Égypte, qui était longtemps le médiateur entre Israël et les Palestiniens, aujourd'hui, l'Égypte est en partie discréditée parce qu'elle s'est aliénée l'un des deux acteurs principaux, en l'occurrence le Hamas.
L'évolution de la situation à Gaza, on en parle bien sûr dans les journaux de RFI. Yann, on va maintenant dans un pays où les islamistes radicalisent de plus en plus leur discours, c'est la Turquie. Le vice-premier ministre, qui est un très proche du chef du gouvernement, Recep Erdogan, s'est signalé cette semaine par une sortie qu'on qualifiera de franchement rigoriste. Il a appelé les femmes à ne pas rire en public. RFI Istanbul, Jérôme Bastion.
La presque fatwa du porte-parole du gouvernement Bülent Arınç, également vice-premier ministre et très proche du futur président Recep Tayyip Erdogan, a déclenché dans les médias et les réseaux sociaux une avalanche de réactions de femmes, plus ou moins connues, exhibant leurs plus beaux sourires sur des selfies individuels ou de groupe. Mais la dérive rigoriste du parti au pouvoir ne manque pas d'inquiéter, surtout à la veille d'un scrutin présidentiel d'ores et déjà acquis à M. Erdogan et qui devrait encore renforcer le contrôle du parti AK au pouvoir depuis 12 ans sur la société turque. Car M. Arınç, qui avait déjà multiplié ces derniers temps les condamnations de séries et programmes télévisés invitant selon lui à l'addiction sexuelle, estime que la femme turque doit rester décente en toutes circonstances et donc ne pas rire à gorge déployée devant tout le monde. Elle doit aussi veiller à sa chasteté, de manière à demeurer bonne à marier, une question pour lui de droiture morale. De la même manière, le politicien a dénoncé les femmes qui abusent, selon lui, du téléphone portable. Autant de références à un islam strict, jusque-là très éloigné des coutumes locales.
Un homme fort qui tombe de son piédestal, c'est en Chine. Enquête lancée contre un des plus hauts responsables du parti communiste, Zhu Yongkang, est accusé de violation grave de la discipline, une formule qui désigne habituellement des faits de corruption. Les précisions d'Heike Schmidt à Pékin.
Le grand tigre est tombé, le plus dangereux rival du président chinois écarté. C'est la première fois que le pouvoir en place vise si haut. Avec Zhou Yongkang, c'est l'ex numéro un des services de sécurité chinois qui fait les frais d'une vaste campagne anti-corruption. Prénommé tsar de la sécurité, il régnait sur quelques 10 millions de policiers, d'agents secrets et d'autres fonctionnaires. Jusqu'à sa retraite en 2012, Zhou faisait partie du comité permanent du bureau politique, le sein des saints du pouvoir communiste. Depuis décembre dernier, l'homme politique du Sichuan et grande figure de l'industrie pétrolière avait disparu de la scène publique, tombé en disgrâce et probablement mis en résidence surveillée. Ces derniers mois, les taux s'étaient en effet resserrés autour de ce puissant chef de clan de 71 ans, avec l'arrestation de 300 de ses proches et compagnons de route et la confiscation de 10 milliards d'euros de biens, avoirs financiers, villas et voitures de luxe, œuvres d'art et antiquités.
Yann Mins, vous notez dans Alternatives Internationales que le raidissement du gouvernement Erdogan en Turquie n'a pas particulièrement d'effet sur le soutien dont il jouit dans le pays. Pourquoi est-ce qu'il est toujours aussi populaire ?
Je pense qu'il est populaire pour plusieurs raisons. En creux, parce que probablement l'opposition, pour l'instant, ne présente pas à l'ensemble de la population une alternative, j'allais dire socialement crédible. C'est-à-dire que l'opposition représente en bonne partie les élites kémalistes, occidentalisées, les classes supérieures, aisées, urbaines, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de la majorité de la population turque. Ensuite, je crois que Erdogan a bien surfé, si je puis dire, sur cette idée de complot de l'étranger contre la Turquie, en s'attaquant à l'un de ses anciens alliés, qui est le responsable de la confrérie Fethullah Gülen, qui est une sorte de franc-maçonnerie pour la faire courte turque, qui est très bien implanté, qui était longtemps l'allié de l'AKP et qui s'est séparé de l'AKP récemment, et ce qui a donné des règlements de compte au sein de l'État turc. Et comme en plus Fethullah Gülen est exilé aux États-Unis, ça donne des apparences de complot de l'étranger. Je pense qu'une partie de la population est sensible. Et puis je pense qu'une partie de la population est sensible aussi, qu'on le veuille ou non, à cette idée de conservatisme des mœurs, etc., etc. Tout ce que le vice-premier ministre a expliqué. Alors évidemment, ça ne passe pas du tout dans une autre partie importante de la population turque, qui sont celles qui regardent plutôt vers l'Occident. Voilà. Mais cette partie de la population turque qui nous ressemble, à nous Européens, on peut dire, ce n'est pas l'ensemble de la Turquie. Et cette autre Turquie, je pense qu'on la voit trop peu. Maintenant, s'attaquer aux femmes, c'est s'attaquer à la moitié de la population. Et ça, de la part de l'AKP, ça me paraît un calcul très stupide.
La Chine, avec ses accusations de corruption contre un des chefs du régime, ses enquêtes sur corruption, c'est un peu un moyen d'autorégulation du communisme chinois?
Je crois qu'il y a dans beaucoup de régimes autoritaires, notamment le régime communiste, on laisse assez volontiers les dirigeants s'enrichir par un peu tous les moyens. Et le jour où on veut faire un règlement de compte, évidemment, on a un prétexte tout trouvé. Ce que je veux dire, c'est que Yu Gongqiang était probablement extrêmement corrompu. J'ai pas beaucoup de doutes là-dessus, notamment s'il était proche de l'industrie pétrolière, ce qui est un énorme secteur économique en Chine, très implanté par ailleurs en Afrique, ce secteur chinois. J'ai pas de doute sur le fait qu'il était très corrompu. La question, c'est est-ce que ceux qui aujourd'hui s'en prennent à lui sont moins corrompus? Est-ce que Xi Jinping va s'attaquer aussi à des gens dans son propre entourage, dont on peut penser, y compris dans sa propre famille, qu'il y a aussi des corrompus.
Sept jours dans le monde.
Et Yann Mars, je vous propose d'ouvrir le livre de cette semaine à la page Ukraine. Une équipe de 70 experts internationaux est déployée depuis vendredi matin sur le site du crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines à la recherche des corps des victimes qui n'ont pas encore été retrouvées. Les efforts des enquêteurs ont jusque-là été ralentis par la poursuite des combats entre l'armée ukrainienne et les groupes pro-russes. L'armée semble d'ailleurs poursuivre sa progression. Notre correspondant Sébastien Gobert a pu se rendre à Slaviansk, une ville reconquise début juillet. Mardi, il raconte ce qu'il a vu.
Hormis une abondance de drapeaux ukrainiens dans les rues, les barrages militaires à l'entrée de la ville et les slogans patriotiques, on ne pourrait plus dire que Slaviansk était jusqu'à peu le centre névralgique de la résistance aux autorités de Kiev. La vie semble reprendre ses droits pour les 110 000 habitants. Il n'y a plus de coupure d'eau ou d'électricité et le premier restaurant a rouvert il y a peu. Mais une certaine tension se fait malgré tout sentir dans les rapports avec les habitants. Une tension à laquelle doit faire face Svetlana Pomagayeva, en charge d'une équipe de psychologues.
Les traumatismes les plus importants sont l'inquiétude, souvent l'angoisse, la peur, notamment la peur que cela recommence. Les enfants sont très réceptifs aux agressions sonores. Les gens dorment mal.
L'équipe est composée de spécialistes locaux et de volontaires et offre des thérapies individuelles et de groupe. Environ une centaine de personnes se sont présentées au docteur. Tous s'imaginent continuer à vivre à Slaviansk, mais la méfiance règne. Beaucoup d'activistes du régime séparatiste chercheraient à se mêler à la masse et à se faire oublier. L'ensemble des policiers est aussi soumis à des détecteurs de mensonges pour déterminer dans quelle mesure ils ont collaboré avec les rebelles. L'expérience séparatiste n'a duré que quelques semaines à Slaviansk, mais il faudra de longs mois de patience et de dialogue pour en réparer les ravages.
Les dirigeants de l'Union européenne ont adopté dans la semaine de nouvelles sanctions contre la Russie. C'est le troisième stade. Cette fois, Grégoire Lory, il n'est plus uniquement question de gel d'avoir ou d'interdiction de visa. Les Européens veulent frapper fort.
Cet accord politique de l'Union européenne marque un changement de ton majeur à l'égard de la Russie. Les 28 entrent désormais dans la troisième et dernière phase de leur programme de rétorsion. Ce paquet comporte à la fois des mesures financières, commerciales et énergétiques. Tout d'abord, les États membres vont fermer leur marché aux banques publiques russes. Les opérateurs européens ne pourront plus utiliser d'actions ou d'obligations émises par ces établissements. Les 28 mettent aussi en place un embargo sur les armes. Toute assistance, même technique, sera elle aussi interdite. Toutefois, cette mesure ne concernera pas les contrats déjà signés. La France pourra donc livrer ses deux porte-hélicoptères de type Mistral. Finalement, ces restrictions seront aussi mises en place dans le domaine énergétique, mais uniquement dans le secteur pétrolier, certains États membres dépendent trop du gaz russe. Avec cet accord, les Européens estiment mettre en œuvre des mesures concrètes qui toucheront plus rapidement l'économie russe.
Moscou, de son côté, dénonce des sanctions anti-russes dictées par Washington. Yann Mince, le dossier russo-ukrainien, vous y revenez longuement dans le dernier numéro d'Alternative Internationale. Les nouvelles sanctions européennes et américaines peuvent-elles avoir un impact réel ?
C'est difficile à dire parce que ça ne touche pas, comme le dit Grégoire Lory, à ce qui est le vrai atout de la Russie, qui est le gaz. Pour l'instant, on a touché au pétrole, mais c'est surtout le gaz qui est l'atout économique fort de la Russie. C'est ça qui ferait vraiment mal à Vladimir Poutine. Cela dit, la limitation des marchés financiers, ça va faire mal à beaucoup d'oligarques russes, à beaucoup de gens qui sont proches du pouvoir russe, à des banques, etc. Et donc, ça va faire mal indirectement à Poutine. Cela dit, je pense que, au vu de l'avancée des troupes ukrainiennes, au vu de l'affaire de la Malaysian Airlines, les pro-russes sont sur le recul, ou en tout cas sur la défensive.
Le rapport de force est renversé, là.
On a l'impression que depuis que Poroshenko, le nouveau président, a été élu en Ukraine, l'armée a retrouvé une nouvelle vigueur, peut-être de nouveaux moyens aussi techniques, et que aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt le camp de Poutine qui est sur le recul. Alors la question, c'est jusqu'où est-ce que Poutine peut ou pas laisser tomber ceux qui sont aujourd'hui les pro-russes ? Est-ce que ce serait pour lui un camouflet trop grave, effectivement, que ses alliés, même s'ils nient qu'ils les soutiennent, continuent à reculer jusqu'à ne plus avoir aucun pouvoir. C'est vrai qu'il a pris son gage, et il a pris la Crimée, qui était pour lui l'essentiel, parce qu'elle avait été donnée en 54 par Khrouchtchev à l'Ukraine, et que les dirigeants russes considèrent qu'elle a toujours été russe, et qu'en plus, il y a la base navale Sébastopol. Donc probablement, c'est moins grave pour lui de ne pas avoir le contrôle direct de l'Ukraine, mais de ne plus avoir d'influence en Ukraine, ce serait extrêmement grave, extrêmement lourd. Il y a beaucoup de relations économiques entre la Russie et l'Ukraine, c'est très important. Au-delà des relations culturelles et des sympathies, il y a des relations économiques et notamment une partie de l'industrie de défense qui arme la Russie se trouve en Ukraine. Donc effectivement, il y a aussi des enjeux militaires de long terme pour Vladimir Poutine.
À propos de Vladimir Poutine, vous parlez de déstabilisateur déstabilisé. Est-ce que finalement, ce n'est pas lui qui s'affaiblit avec cette crise ukrainienne ?
Il a fait un calcul qui, à court terme, était très payant. Vladimir Poutine a été contesté il y a un an ou deux dans la rue. Alors évidemment, pas de façon extrêmement significative sur le plan politique. Il continue à avoir une partie importante de l'opinion avec lui. Avec la crise ukrainienne, il a eu, parce qu'il a joué le complot de l'étranger, etc., anti-occidental, tous ces discours qu'on a vus, il a retrouvé une popularité, mais c'est une popularité qui peut être un feu de paille si, effectivement, demain, comme je le disais, il subit un camouflet parce que il est obligé de laisser tomber ses alliés en Ukraine. Là, du coup, le retour de bâton peut être aussi violent et ça peut être dangereux pour lui du point de vue interne. J'y crois pas beaucoup parce que son pouvoir est très assis, mais il faut voir si l'opinion publique russe le soutiendra autant si demain il est en échec qu'elle l'a soutenu quand il était apparemment victorieux. En tout cas,
oui, vous parlez de cette stratégie de revenir un peu à une mentalité de guerre froide. Mmh. Vous faites le portrait dans le magazine des trois idéologues du poutinisme, et c'est vraiment ce qui ressort, cet anti-occidentalisme, c'est le ferment de la nouvelle grande Russie.
Alors, c'est compliqué avec Poutine, parce que je pense que Poutine n'est pas fondamentalement un idéologue. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui utilise des idéologues en fonction de ses besoins du moment. Là, en ce moment, effectivement, il a eu besoin de ses théoriciens de l'Eurasie, de l'eurasiatisme, de la grande puissance russe et de son influence déterminant son étranger proche. Il a besoin de ces gens-là. Demain, si pour des raisons tactiques, parce que le rapport de force lui est défavorable, il a besoin d'autres théoriciens, je pense qu'il en trouvera. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est l'allié objectif, et peut-être le sponsor de ces théoriciens d'une grande Russie impériale, oui.
Alors, ça a été une dure semaine pour la Russie, puisque Moscou a été condamné deux fois dans le dossier Yukos pour des irrégularités lors de la mise en faillite du groupe pétrolier par le fisc russe, suivi d'une prise de contrôle par l'État. Lundi, la cour d'arbitrage de l'AE ordonnait le versement de 37 milliards d'euros en faveur des anciens actionnaires. Et jeudi, la Cour européenne des droits de l'homme ajoutait près de 2 milliards de dédommagement. Yann Mince, on vous retrouve dans 3 minutes, le temps d'une pause et du retour de l'info sur RFI.